18-19, le magazine.
Tard, hier au soir, t'as rencontré les flicards. T'es déshonneur, t'aurais dû mettre un costard. T'as pas eu le temps de t'expliquer. Allez, hop, tu t'es retrouvé.
Bonsoir, c'est Onde Noire, une émission sur l'actualité du polar présentée par la Noiraude. Donc une actualité assez proche puisque le mois dernier nous vous avions parlé d'un livre de Maurice Attia, Alger la Noire, auteur que nous avons rencontré depuis et qui a accepté de répondre à quelques questions. Alors un petit peu toujours le même principe, pour pouvoir le contacter, on va vous passer un petit coup de musique et Jacques, tu vas nous présenter le morceau qui va suivre.
C'est un morceau d'Elvis Presley. Comme le roman se passe en 1962, j'ai choisi de passer donc un des morceaux qui était au hit parade à cette époque-là, aux États-Unis, parce qu'en France c'était quand même un tout petit peu moins pétant. Donc le morceau s'appelle Good Luck Charm, Elvis Presley.
Ah, ah, oh yeah, don't want a four-leaf clover. Don't want an old horseshoe. Want your kiss, cause I just can't miss with a good luck charm like you. Come on and be my little good luck charm. No wonder that I say, come on and be my little good luck charm.
Et ben voilà, donc on a un peu chanté Elvis Presley pour pouvoir parler un peu plus longtemps avec Maurice Attia. J'espère que vous êtes bien en ligne. Bonjour.
Oui, bonjour.
Donc, votre roman se passe donc en Algérie en 1962. Mm-hmm. Tout d'abord, qu'est-ce qui peut bien pousser quelqu'un qui est psychanalyste, psychiatre, à écrire des romans noirs ?
Oh, ben, je crois que c'est tout bête, hein. C'est mon métier n'est qu'une... n'est qu'une succession de longues enquêtes individuelles. On cherche toujours le coupable, bien qu'il n'y ait pas de culpabilité réelle, mais la culpabilité est une saloperie que les gens parfois cultivent et se morfondent avec, et donc ils sont amenés parfois à venir me voir et on cherche ensemble ce qui les amène à se sentir si coupables et quel drame dans leur vie a pu les amener à souffrir autant. Donc voilà, je suis amené à chercher avec eux en permanence et être dans le noir, parce que c'est jamais des histoires très drôles.
Et donc là, en fait, vous avez donc c'est Paco Martinez qui est inspecteur de police qui va faire cette enquête. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement un petit peu ? On en a parlé le mois dernier en fait de votre roman, mais rappelez un petit peu les grandes lignes si.
Oui, bah, en fait c'est un jeune inspecteur de Babeloued qui a une trentaine d'années, qui vit avec sa grand-mère, qui l'a élevé parce qu'il est d'origine espagnole et que sa grand-mère a fui le franquisme à la fin de la guerre d'Espagne. Son père officiellement a été tué par les communistes, lui-même étant anarchiste. Ça fait partie des embrouilles de l'histoire où des gens du même camp pouvaient s'étriper pour des luttes de pouvoir. Et baigné dans cette atmosphère dès l'enfance de violence et de guerre, quand il se trouve lui-même plongé dans la guerre d'Algérie, il n'a surtout pas envie de prendre parti. Et lui, son rêve, c'est d'être un peu un flic genre Pépé le Moko, c'est-à-dire un vrai flic de base à la Simenon, qui fait des enquêtes, etc. Et pour échapper à la réalité de la guerre civile, il découvre avec son compère Choukroun des cadavres sur une plage de Bab el Oued, et il décide d'élucider cette histoire et de démasquer le coupable sans tenir compte en aucune manière du contexte, parce que il ne veut pas prendre parti. Et donc, au fur et à mesure de sa progression dans l'enquête, les drames se succèdent, s'amplifient, et lui, obstiné obstiné comme un bourrico espagnol, s'attache à cette enquête malgré tout. Dans un premier temps, avec l'aide de son ami Choukroun et son collègue, dans un second avec sa maîtresse Irène, et plus il va avancer, plus il va être amené à côtoyer les différents protagonistes politiques ou terroristes de cette histoire et se retrouver au final totalement immergé et partiellement impliqué dans la grande histoire. Voilà, c'est en gros le fil de l'histoire. Mais bien évidemment, pour moi, l'enquête policière, bien que je la respecte et que ça m'intéresse, et que j'ai tenu à ce que elle tienne en haleine le lecteur, il était pour moi question de faire passer aussi ce que pouvait être le quotidien d'une population dans la guerre civile, et montrer à quel point, à un moment donné dans le bouquin, je dis un truc du genre les armées bavent et les civils trinquent, à quel point, tout camp confondu, tout le monde a trinqué dans cette histoire, et évidemment, comme toujours, avant tout, les civils qui ont épongé la multitude de balles perdues ou pas dans cette histoire, quoi.
Mais vous dites que l'inspecteur ne prend pas parti, pourtant vous, quand même, dans le roman, vous positionnez quand même.
Je me positionne pas vraiment dans la mesure où je pense, je crois qu'il y a une chose qui a été difficile pour moi dans cette histoire, c'est que bon, étant né dans la Casbah, ayant vécu dans la Casbah jusqu'à l'âge de 5 ans, puis après avoir été transplanté à Bab el Oued, j'ai vécu dans des univers extrêmement différents, et quand j'en suis parti en 62, j'étais encore un enfant, et tous mes souvenirs étaient des souvenirs d'enfant, et donc j'ai tenté à travers ce roman de donner la fraîcheur d'un regard d'enfant dans la tête d'un adulte, c'est-à-dire que d'essayer que justement il n'y ait pas de prise de parti politique, mais une prise de parti presque humaniste, à savoir comment se sortir d'une telle mélasse sans trop de dégâts. Et malheureusement, je pense que c'est impossible, qu'on peut pas échapper au contexte dans lequel on vit, et que quand on est dans une tourmente telle qu'une guerre civile, qu'on prenne parti ou pas, on y laisse des plumes, et c'est un peu la philosophie de cette histoire, c'est que ma prise de position est que quoi qu'on fasse, on peut pas échapper au cas dans lequel on évolue et aux enjeux qui s'y passent, quoi. Ma prise de parti est que la guerre est une horreur absolue et qu'elle fait des dégâts considérables et durables. Parce que je crois que ce qu'on retient toujours de la grande histoire, c'est l'effet d'armes, etc. Mais on prend jamais vraiment la mesure des dégâts considérables qu'elles peuvent faire dans les âmes, dans la mémoire des gens et les témoignages que j'en ai eus depuis que j'écris ce bouquin de personnes très âgées, moyennement âgées, ou de fils, ou de petits-fils, et que tout ça est transmis, trimballé, et que ça fait trace, quoi, qu'il y a encore la mémoire de ces douleurs et la transmission de ces douleurs.
Alors justement, en tant que mémoire, pourquoi 62, ça fait donc maintenant plus de 40 ans?
Oui.
Y a quelque chose qui a ravivé et qui a fait que vous êtes mis à écrire maintenant cette histoire? Pourquoi ne l'avoir pas écrit plus tôt?
Oui, c'est une bonne question. Je remercie de l'avoir posée, comme disent les politiques. Là, on rentre dans l'intime. Il y a plusieurs choses, des choses intelligibles et des choses plus ou moins mystérieuses. Les choses intelligibles, c'est que, vous savez, parfois les gens qui viennent me consulter me disent au bout de quelques mois ou d'un an, si j'avais su, j'aurais fait une thérapie ou une analyse plus tôt. Et je leur réponds, c'est complètement stupide, parce que si vous la faites maintenant, c'est que vous ne pouviez pas la faire avant. Et pour mon bouquin, c'est un peu ça. Ça fait quelques années que je pense à l'écrire. Ça fait même très précisément 5 ans que je voulais l'écrire. Et je n'y arrivais pas. Et il a fallu un certain nombre de circonstances personnelles, et notamment que je décide d'un exil, parce que j'étais au départ d'Algérie, puis à Marseille, puis à Paris, puis je suis parti aux Antilles, puis de nouveau à Paris, et au final je me retrouve depuis 2 ans à Orléans, et c'est à Orléans que j'ai écrit ce bouquin, et j'avais besoin de me mettre dans un contexte d'exil pour écrire ce livre. Ça, c'est rationnel. Et par ailleurs, il y avait un vrai problème de loyauté familiale parce que il se trouve qu'un des personnages du roman qui s'appelle Maurice Choukroun, dans la réalité n'est pas du tout le même personnage que celui du roman, mais c'est un ami de mon père et il y avait une nécessité de loyauté par rapport à cette mémoire-là. Donc voilà pourquoi j'ai écrit ce bouquin, pourquoi... À l'âge que j'ai à ce moment-là, je pense qu'il fallait du temps, de la maturité et de la prise de distance, je crois, pour ne pas tomber dans justement des jugements de valeur et des...
Et comme on dit là-bas, du pathos.
Comment ?
Et comme on dit là-bas, du pathos.
Voilà, du pathos. Je voulais pas mettre de pathos. J'ai fait très gaffe à ça parce que c'est tellement facile de s'y laisser aller. Voilà. Et ça donc, vous va comme réponse?
Oui, tout à fait.
Oui, très bien.
Et donc, en fait, est-ce que c'est plus pour vous débarrasser de souvenirs qui étaient un peu lourds, ou alors c'est pour faire connaître cette histoire à une génération qui la connaîtrait pas et qui pourrait penser que les Pieds Noirs, c'est tous des colons richissimes qui avaient 500 000 oliviers?
Oui, mais voilà, il y avait un peu tout ça. Il y avait, non, alors, contrairement à ce que vous dites, c'était pas pour me débarrasser de souvenirs, parce que, évidemment, bien qu'étant psychanalyste, j'ai découvert avec effarement, au fur et à mesure que j'écrivais ce livre, qu'une multitude de souvenirs refoulés de la petite enfance, des petites anecdotes comme des choses douloureuses sont remontées à la surface avec parfois douceur comme des madeleines, mais parfois avec des goûts, des miasmes fétides, des choses qui puaient, quoi, qui n'étaient pas du tout agréables et que j'avais soigneusement refoulées, qui sont remontées à la surface. Donc c'était pas, au contraire, il y a des choses qui sont remontées, qui avaient disparu. Pour l'histoire de la mémoire, c'est presque une velléité. Je crois que c'est Gide qui disait tout a déjà été écrit, mais il est nécessaire de le réécrire parce que tout le monde a oublié. Et malheureusement, je crois que je me fais pas d'illusions. Mon bouquin peut avoir un certain nombre de lecteurs et d'intérêts, réveiller des intérêts ou des passions. Je crois que ça retombera comme un mauvais soufflet, inéluctablement, parce qu'il y a une nécessité comme ça d'oublier. C'est typiquement français, moi, je pense, cette histoire, d'oublier les choses glauques qui ont pu être faites au nom de l'État ou de la nation. Ça, c'est une première chose. Et par ailleurs, effectivement, l'histoire de la mémoire, mes propres enfants d'ailleurs, j'avais besoin de leur transmettre quelque chose que je n'avais jamais pu transmettre. Et qu'ils sortent de cette confusion d'une Algérie totalement coloniale avec des riches et une population algérienne complètement aux ordres. Il y avait, comme dans tout pays, colonie ou pas, allez, on va dire 2% de la population qui avait beaucoup de pognon. Et puis, le reste, c'était du petit peuple. Il ne faut pas oublier que l'Algérie, ça a été de la colonisation, mais ça a aussi été des communards qui ont été exilés de force après la Commune, ça a été des Espagnols qui ont fui le franquisme, ça a été plein de gens, de miséreux qui se sont retrouvés là et qui n'ont jamais été que de petits artisans, commerçants ou fonctionnaires et qui, pour ne parler que de Bab el Oued était un quartier extrêmement populaire et pas du tout bourgeois et pas du tout friqué. Il y avait une population modeste, rigolarde, mais avec la joie de vivre, mais pas du tout dans le roulant sur l'or ou vivant l'exploitation de l'homme par l'homme, quoi. C'était très prolo et c'était même dans certains quartiers, comme en France d'ailleurs après-guerre, limite au niveau de l'habitat, de l'hygiène, etc., parce qu'il n'y avait pas de salle de bain, il n'y avait pas de trucs comme ça. Donc c'est cet univers-là que je voulais décrire, cet univers de petit peuple et d'une vision du vécu d'un petit peuple dans un quartier qui est aspiré par l'horreur et qui s'en remet mal. Et effectivement, il y a eu toute une... Moi, le premier, en tant que jeune préadolescent arrivant à Marseille, j'ai été effaré des jugements de valeur qu'on me balançait à la figure. J'étais un fils de... Mon père était cordonnier à Alger et je voyais pas très bien qui pouvait exploiter à part lui-même. Hein.
Oui, exactement.
Donc, effectivement, c'était pas le propos.
Et est-ce que vous ou votre éditeur, vous avez eu des retours négatifs ou positifs après ce roman?
Eh bien, écoutez, j'ai eu un truc assez marrant. J'ai eu un, un type qui écrit, que je nommerai pas, mais qui écrivait des, qui écrit des polars, qui est venu me voir au cours du lancement de Shanghai Express, là, vous savez, là.
Oui, la revue polar.
La revue.
Et qui m'a dit, je voulais m'excuser. Alors, je dis pourquoi? Il me dit, parce que quand j'avais 18 ans, j'étais à l'OS, j'étais vraiment très con. Voilà, c'est la réaction, un peu perplexe d'un gars qui doit avoir une soixantaine d'années, et qui, voilà, venait parler de ça. Sinon, très curieusement, la plupart des réactions, ce qui m'a beaucoup ému et touché, c'est des vieux pieds noirs qui ont lu ce bouquin avec beaucoup de tension parce qu'ils redoutaient eux-mêmes des retours de souvenirs désagréables. Et aussi que je dénature le climat et le contexte et pour la plupart, ils m'ont dit qu'ils avaient été très contents que j'ai rendu... ils étaient même un peu étonnés qu'un gamin de 12 ans ait une vision aussi lucide de cet univers-là. Je n'ai pas eu de... Au contraire, j'ai eu beaucoup d'Algériens, de jeunes générations, de 25-30 ans, qui ont découvert des choses sur leur histoire et qui me disaient qu'eux-mêmes, ils étaient un peu effarés de devoir s'informer de l'histoire de leur pays à travers... les récits et les archives parce qu'ils n'avaient pas eu eux-mêmes accès à leur propre histoire parce qu'elle a été comme un peu en France zappée par les grands événements, la révolution, etc. Et on n'a pas vraiment raconté ce qui s'est joué et ce qui s'y joue et ça les interpellait forcément.
Ouais, moi, je confirme, nous avons de vieux pieds noirs très très proches de nous qui ont ouvert ce bouquin avec exactement ce que vous avez décrit, c'est-à-dire à la fois une attente et un peu une crainte de voir leurs souvenirs un peu dénaturés et qui sont restés très fascinés par la description parce qu'ils ont retrouvé exactement l'ambiance de tout ce qu'ils avaient vécu. Voilà. Donc peut-être une dernière question, parce que malheureusement le temps passe.
Oui, bien sûr, allez-y.
Est-ce qu'il y aura une autre enquête de Paco Martinez?
Elle est en cours. Je suis en train de travailler sur un bouquin qui probablement va s'appeler Pointe Rouge, qui va se passer à Marseille.
Ça alors, oui.
Et qui va donc se passer dans... c'est un hasard. 67-68. Et c'est une période fascinante parce que en 67 le clan des Guérini s'effondrait et il y avait la guerre de succession qui s'est enclenchée avec beaucoup de violence à ce moment-là. Le Thiers a été flingué en fin 67, il y avait la guerre des six jours, il y avait des grèves qui commençaient très importantes. Et le sac qui développait son réseau et notre pauvre Paco Martinez
va se retrouver au milieu de tout ça.
Plongé dans l'univers qui bascule. Cette fois-ci, c'est pas l'Algérie, mais c'est la France avec la bascule des années 60 et changement de culture, changement de régime et lutte, etc. Et dérapage. Et évidemment, Marseille est un cadre idéal pour ce dérapage, puisque ça a pas mal dérapé dans ce coin-là, dans ces années-là.
Tout à fait.
Ben Maurice Attier, on va vous remercier.
C'est moi.
C'était une interview très agréable et on attend avec impatience la suite. Ceci dit, vous allez pouvoir avoir du travail très longtemps, parce que jusqu'à 2006, vous allez bientôt pouvoir parler des périodes troublées.
Ah ben, j'en ai déjà quelques autres, ouais. Dont je ne vous parlerai pas, mais ça n'arrête pas, je veux dire. Tout ça n'a fait que se développer, s'empirer, et c'est voilà, on est actuellement encore dans des périodes pas très claires, et elle vient pas de nulle part, cette période pas très claire.
Tout à fait.
Et on parlera ça une autre fois.
Voilà. Je vous remercie beaucoup.
Je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne fin de journée.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Et on va enchaîner sur les informations.
Au début de soirée, tout de suite, l'information régionale vous est développée par Vicky Bérardi.